Internet Campagne, bonjour. Nous entrons dans le département du Vaucluse en signalant tout de suite une initiative louable prise par le département afin de casser l'image négative des bénéficiaires, dit-on, j'aime bien dire les tributaires, parce que c'est pas vraiment un grand bénéfice, du RSA. En octobre dernier, était en effet organisée la première remise des trophées de la réussite qui fait suite au programme départemental d'insertion porté par la collectivité. Plusieurs prix étaient attribués, dont le retour à un emploi salarié, la création d'entreprise, l'accompagnement remarquable réalisé par Pôle emploi d'Avignon, par exemple, ou encore les initiatives volontaristes d'une collectivité, en l'occurrence celle de Valréas, pour son chantier d'insertion Rénoval. Voilà une bonne chose. Nous ouvrons cette édition par une victoire remportée par un savoir-faire qui connaît un regain d'intérêt auprès des professionnels et aussi des amateurs du bâti. C'est la construction en pierre sèche et le métier de murailler. Ceux-ci viennent d'être classés au patrimoine mondial de l'humanité. La chambre de métiers et de l'artisanat du Vaucluse y est pour beaucoup. Explication avec son architecte Claire Cornu. Un projet de grande envergure est en cours de réalisation, la Méditerranée à vélo. L'association Vélo Loisirs Provence se charge de la partie régionale du parcours. Camille Peretta sera notre guide sur cette grande voie verte.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Claire Cornu, bonjour.
Bonjour.
Alors, que s'est-il passé l'année dernière lorsque l'UNESCO vous a annoncé que l'art de la construction en pierre sèche, sa technique et ses savoir-faire étaient reconnus, inscrits au patrimoine culturel immatériel?
Beaucoup d'émotions, et puis c'est un sacré boulot, une belle aventure, ouais. Une coopération transnationale, pluridisciplinaire, c'est des artisans, c'est des ingénieurs, c'est des architectes, c'est des élus locaux, c'est des agents de développement comme je suis. Non, c'est vraiment une chaîne de solidarité. Donc la consécration UNESCO, on en est vachement fiers.
Avant de savoir ce qui va changer à partir de cette reconnaissance mondiale, c'est que vous êtes administratrice de la Société scientifique internationale pour l'étude pluridisciplinaire de la pierre sèche, et vous êtes membre aussi de la Fédération française des professionnels de la pierre sèche. Comme vous l'avez dit, il y a une consécration et il y a un réseau international. Mais oui. C'est pas pour le cocorico, mais malgré tout, la France était leader en matière de pierre sèche.
Leader en matière de retrouver une filière professionnelle. C'est avec ce programme européen REPIS, Réseau européen des pays de la pierre sèche, qui était dans les années fin 90, c'est là vraiment qu'on a commencé à parler de la maçonnerie, on a commencé à parler du savoir-faire, des techniques, etc. Ça a été vraiment là. Voilà, nos acolytes, il y a ceux de Majorque, au Baléares, qui sont vraiment bien avancés, mais ils n'ont pas été jusqu'à faire un diplôme national du savoir-faire, ils n'ont pas été jusqu'à faire des thèses de doctorat. Ils nous envient pour ça. Mais par contre, eux, ils sont très forts dans la communication, ils ont eu une déclaration de grand site de l'UNESCO pour la Sierra Tramontane, ils ont créé des chemins de randonnée, etc. Voilà, eux, ils sont plus forts que nous là-dessus.
Oui. La chose remarquable, dites-moi si je me trompe, mais c'est tellement rare, c'est que le dossier de candidature que vous avez déposé auprès de l'UNESCO était un dossier transnational.
Alors, c'est peut-être pas rare, il y en a moins, c'est vrai. Mais c'est une demande de l'UNESCO d'essayer de créer des réseaux communautaires, comme ils disent. Il s'est trouvé qu'en fait, la Société internationale pour la pierre sèche, ça fait déjà plus de 20 ans, on fait des congrès tous les deux ans. Donc on se retrouve, on est joyeux, on partage les connaissances, on partage les avancées. Donc on avait déjà ce réseau. Avec le ministère de la Culture, quand il est venu pour nous dire « Ok, on y va, on va lancer ce dossier UNESCO », on a tous dit, mais il faut aller voir les autres, quoi. Donc, en 2012, en Sardaigne, au congrès, là, je leur ai dit, mais il faut absolument qu'on le fasse en transnational. Et il y a eu un peu de flottement, et bien évidemment, allez, on y va. Voilà, non, c'est beau. Moi, je suis vachement contente de ça. Et vous savez qu'il y a d'autres pays qui veulent se greffer.
Ah bon ?
Il y a l'Irlande, l'Autriche, le Luxembourg et la Belgique. Donc, ça s'appelle une candidature dite d'agrégation. Donc, il va falloir qu'ils se collent dans notre dossier et qui redépose à l'UNESCO pour s'agréger. Alors, c'est bien.
Ouais. Et Claire, ça change quoi cette reconnaissance? Ça change d'abord qu'il y a un métier qui est reconnu officiellement. Il l'était, celui de murailler. Il était entré en 2006 dans la liste nationale des métiers d'art, spécialité de maçon du patrimoine.
2016,
ça, c'était une chose.
2016.
Et puis il y a aussi donc des formations aujourd'hui qui sont faites. Il y a un développement de l'éco-construction. C'est pas uniquement de la restauration ou de la réhabilitation. C'est aussi de la construction écologique.
Oui. Oui, tout à fait. C'est un matériau sain, naturel, on peut le réemployer, on peut le recycler. Voilà, c'est quand même intéressant.
Et c'est l'ouverture aussi, donc, d'une nouvelle source d'emploi.
Oui, c'est une spécialité que peuvent avoir les maçons dans les villages. C'est aussi peut-être un emploi pour, vous savez, les personnes dans les villages qui s'occupent de l'entretien de l'espace.
Ouais.
On peut aussi les former à justement entretenir les murs, à les préserver, à remettre une pierre parce que voilà qu'elle est tombée, avoir cette sensibilité. Et c'est surtout garder ses murs parce que sinon on a des enrochements, vous savez, les gros blocs de rochers qu'on met avec une pelle mécanique, mais c'est quand même disproportionné. Ou bien on a les gabions qui sont ces cages en fer métallique dans lesquelles on déverse des pierres, mais ça fait routier, mais ça va pas dans un village. Un espace d'accompagnement d'un bâti ancien, c'est quand même dommage de ne pas préserver ces murs et de les maintenir, de les entretenir. Et ça fait de l'emploi local, non délocalisable.
Bravo. Bravo pour ce classement de cet art au patrimoine mondial de l'humanité, pour une démarche qui a débuté dans votre département du Vaucluse et qui se poursuit aujourd'hui et qui s'étend partout en France avec des centres de formation. Vous allez avoir un lien avec la société scientifique, la SPS internationale pour l'étude pluridisciplinaire de la pierre sèche, et puis aussi avec la Fédération française des professionnels de la pierre sèche. Merci Claire pour votre enthousiasme.
Merci beaucoup.
Carnet de campagne, Philippe Bertrand, sur France Inter.
Souvent, il est utile de revenir sur des initiatives dont nous avions parlé antérieurement. Cela permet de mesurer leur pérennité et de partager à nouveau une bonne démarche. C'est le courrier de Martine qui nous y incite avec l'association Solidagri qui permet l'embauche de personnes en situation de handicap en CDI dans le domaine agricole. Le défi lancé est donc bien transformé, partait d'une demande du CFPPA, autrement dit le Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole de Carpentras, de la MSA et des jeunes agriculteurs en quête d'une main-d'œuvre. Le second défi était de transformer les contrats de travail en contrat à durée indéterminée, en formant des salariés polyvalents, donc capables de répondre aux besoins saisonniers d'exploitants agricoles et de compléter leur emploi du temps en viticulture, en arboriculture ou en maraîchage. C'est à partir de ces expériences qu'est née aussi une filière de travail complémentaire sous le nom des Jardins de Solène. À Pernes-les-Fontaines, cette association collecte des fruits et légumes dits déclassés, vous savez, pas assez formatés pour le marché, hélas, avant de les transformer dans sa légumerie, à l'attention des cantines collectives de la région, des initiatives qui mêlent, je cite, notre correspondante, le social, la santé, le circuit court et l'humanisme. Les deux structures partagent ce slogan bien trouvé, cultivons le champ des possibles, solidagri.com et puis les jardinsdesolène.com pour les adresses internet. Camille Peretta, bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Camille, vous pratiquez le vélo vous-même ?
Oui, alors surtout en séjour et en week-end. J'ai découvert la pratique d'itinérance en travaillant à Vélo Loisirs Provence. Ça va faire maintenant 4 ans.
Vous êtes chargé de mission à cette association, donc Vélo Loisirs Provence, qui avec la région sud, comme elle s'appelle maintenant, Provence-Alpes-Côte d'Azur, vous travaillez sur un itinéraire immense, alors qui traverse une bonne partie de la France, qui nous concerne, mais qui traverse 11 pays, c'est la Méditerranée à vélo. Je regarde le calcul, ça doit faire presque 6000 km de long.
Alors effectivement, donc Vélo Loisirs Provence, qui est basé dans le Luberon, a travaillé avec la région sud autour d'un itinéraire qui est la Méditerranée à vélo, qui est la partie française de l'Eurovélo 8. L'Eurovélo 8 donc, est un itinéraire européen qui traverse bien effectivement 11 pays,
oui,
de l'Espagne à Cadix jusqu'à Chypre, et fait plus de 5800 km. Mais la partie française de la Méditerranée à vélo, c'est du Pertus à Menton, et ça fait 850 km, ce qui est déjà pas mal.
Ce qui est déjà pas mal. Il y a un souci, Camille. On essaie de se repérer dans le langage aujourd'hui et les concepts. On parle de véloroute et aussi de voie verte. Alors, quelle est la différence entre les deux ?
Alors c'est très simple, la voie verte c'est une voie qui est dédiée au vélo et au mode doux. Donc ça peut être aussi les piétons, les trottinettes, les poussettes, parfois même les chevaux. À l'inverse, la véloroute, elle va emprunter à la fois des pistes cyclables, des sections en voie verte et puis des petites routes tranquilles.
L'idée c'est d'ouvrir une voie cyclable le long de la Méditerranée à tout le monde. Aujourd'hui, on est dans l'ère du vélo pour des raisons de santé et des raisons écologiques. C'est même pas la peine de les rappeler. Elles sont évidentes. Mais pour ouvrir à tout le monde, ça veut dire quand même des itinéraires accessibles à tous.
Oui, voilà. C'est pour ça qu'on travaille à améliorer l'itinéraire. Donc aujourd'hui, il est jalonné en continu, de la frontière espagnole à la frontière italienne. Mais petit à petit, on essaye vraiment de sécuriser l'aménagement pour ouvrir la pratique à tous. Alors bien sûr, l'itinéraire à la Méditerranée à vélo alterne les bords de mer, les étangs, emprunte une section du canal du Midi, mais on y découvre aussi l'arrière-pays. Et parfois, l'arrière-pays provençal, varois, peut comporter du dénivelé. C'est aussi le bijou de cet itinéraire. Mais face à ça, on a le développement du vélo assistance électrique qui permet quand même un accès à la pratique pour tous.
Comment vous vous organisez pour rendre ces voies accessibles à tout le monde et au vélo en particulier, parce qu'il y a des chemins sur des voies vertes qui ne sont pas toujours très carrossables, enfin en tout cas utilisables en deux roues?
Alors c'est vrai qu'on préconise quand même l'utilisation de vélos tout chemin, donc avec des roues adaptées à des parcours en sentier, en chemin, ça passe très bien.
Vous êtes parti aussi de statistiques et d'indices de fréquentation qui ont été donnés. On voit qu'il y a une véritable évolution de la fréquentation. Il n'empêche que c'est le littoral languedocien qui a le plus de succès, donc vous avez un travail d'attractivité à réaliser pour le littoral provençal?
Alors en Provence, l'itinéraire est plutôt situé en arrière-pays, donc on va longer les Alpes, le Luberon, une partie aussi des Alpes de Provence pour longer aussi le Haut-Var, mais c'est très bien apprécié aussi. C'est vrai qu'on travaille à déployer notamment la marque nationale Accueil Vélo, dédiée à des professionnels du tourisme, hébergeurs, loueurs, restaurateurs, et on les sensibilise pour qu'ils puissent accueillir de manière plus adaptée les cyclistes.
Oui. Accueil Vélo, c'est un logo, on voit un cycliste, et il y a la flèche qui indique le lieu, et normalement ce sont des prestataires qui sont situés à moins de 5 km de l'itinéraire. Vous en êtes où aujourd'hui du tracé de l'aménagement, Camille?
Alors sur les 850 km, on est sur un balisage continu.
Oui.
Il y a encore des sections que l'on travaille pour les améliorer. Donc aujourd'hui, on peut dire que l'itinéraire, il est plutôt adapté à un public d'itinérants habitués, un peu baroudeurs. En revanche, sur des sections comme la véloroute du Calavon dans le Vaucluse, on est sur une pratique très famille.
Et donc la finalisation du trajet est prévue pour quand?
Alors les partenaires se sont engagés à améliorer l'itinéraire et à le rendre le plus confortable possible d'ici 2020.
Ouais, c'est vraiment une portion importante de ce projet européen. Vous le citiez, d'Eurovélo 8, composé de 70 000 km d'itinéraire cyclable dans toute l'Europe, qui va de Cadix à Chypre en traversant 11 pays. Et puis il y a cet itinéraire en Provence à découvrir avec des hauts lieux du patrimoine mondial, en particulier la Méditerranée. Aneavelo.com. Merci Camille.
Merci à vous Philippe.
Demain, nous allons traverser le village de Sérignan-du-Comtat. Vous le connaissez peut-être parce que c'est la terre natale du naturaliste Jean-Henri Fabre. Et dans ce lieu se tient depuis plusieurs années un marché de plantes rares qui est un des plus grands de France. Et puis on vous présentera l'association Musicarim qui transforme les personnes handicapées en musiciens ou musiciennes grâce à une étrange invention. On garde la surprise jusqu'à demain. La semaine prochaine, nous serons en Charente-Maritime, ensuite en Gironde. Et au mois d'avril, je rappelle, Lot-et-Garonne, puis de Dôme, Loire et Rhône pour les destinations des carnets de campagne et également du jeu des 1000 euros qui cette semaine en Vaucluse à Baume de Venise. Aujourd'hui, Nicolas Stoufflet.